Histoire de Gil Blas de Santillane, livre 4, chapitre 5. De ce que fit Aurore de Guzman lorsqu'elle fut à Salamanque. Ortiz, ses compagnes et moi, après avoir entendu cette histoire, nous sortîmes de la salle, où nous laissâmes Aurore avec Elvire. Elles y passèrent le reste de la journée à s'entretenir. Elles ne s'ennuyaient point l'une avec l'autre. Et le lendemain, quand nous partîmes, elles eurent autant de peine à se quitter que deux amies qui se sont fait une douce habitude de vivre ensemble. Enfin, nous arrivâmes sans incident à Salamanque. Nous y louâmes d'abord une maison toute meublée, et la dame Ortiz, ainsi que nous en étions convenus, prit le nom de Dona Ximena de Guzman. Elle avait été trop longtemps duègne pour n'être pas une bonne actrice. Elle sortit un matin avec Aurore, une femme de chambre et un valet, et se rendit à un hôtel garni où nous avions appris que Pacheco logeait ordinairement. Elle demanda s'il y avait quelque appartement à louer. On lui répondit qu'oui, et on lui en montra un assez propre qu'elle arrêta. Elle donna même de l'argent d'avance à l'hôtesse en lui disant que c'était pour un de ses neveux qui venait de Tolède étudier à Salamanque et qui devait arriver ce jour-là. La duègne et ma maîtresse, après s'être assurées de ce logement, revinrent sur leurs pas. Et la belle Aurore, sans perdre de temps, se travestit en cavalier. Elle couvrit ses cheveux noirs d'une fausse chevelure blonde, se teignit les sourcils de la même couleur et s'ajusta de sorte qu'elle pouvait fort bien passer pour un jeune seigneur. Elle avait l'action libre et aisée, et à la réserve de son visage, qui était un peu trop beau pour un homme, rien ne trahissait son déguisement. La suivante, qui devait lui servir de page, s'habilla aussi, et nous n'appréhendions point qu'elle fît mal son personnage. Outre qu'elle n'était pas des plus jolies, elle avait un petit air effronté qui convenait fort à son rôle. L'après-dîner, ces deux actrices se trouvant en état de paraître sur la scène, c'est-à-dire dans l'hôtel garni, j'en pris le chemin avec elles. Nous y allâmes tous trois en carrosse et nous y portâmes toutes les hardes dont nous avions besoin. L'hôtesse, appelée Bernarda Ramirez, nous reçut avec beaucoup de civilité et nous conduisit à notre appartement, où nous commençâmes à l'entretenir. Nous convînmes de la nourriture qu'elle aurait soin de nous fournir et de ce que nous lui donnerions pour cela tous les mois. Nous lui demandâmes ensuite si elle avait bien des pensionnaires. « Je n'en ai pas présentement, » nous répondit-elle. « Je n'en manquerai point si j'étais d'humeur à prendre toutes sortes de personnes, mais je ne veux que de jeunes seigneurs. J'en attends ce soir un qui vient de Madrid ici achever ses études. C'est Don Luis Pacheco, un cavalier de 20 ans tout au plus. Si vous ne le connaissez pas personnellement, vous pouvez en avoir entendu parler. » « Non, » dit Aurore, « je n'ignore pas qu'il est d'une illustre famille, mais je ne sais quel homme c'est, et vous me ferez plaisir de me l'apprendre, puisque je dois demeurer avec lui. » « Seigneur, » reprit l'hôtesse en regardant ce faux cavalier, « c'est une figure toute brillante. Il est fait à peu près comme vous. Ah, que vous serez bien ensemble l'un et l'autre. Par Saint-Jacques, je pourrais me vanter d'avoir chez moi les deux plus gentils seigneurs d'Espagne. » « Ce Don Luis, » répliqua ma maîtresse, « a sans doute en ce pays-ci des bonnes fortunes. »« Oh, je vous en assure, » repartit la vieille, « c'est un ver galant, sur ma parole. Il n'a qu'à se montrer pour faire des conquêtes. » Il a charmé, entre autres, une dame qui a de la jeunesse et de la beauté. On la nomme Isabelle. C'est la fille d'un vieux docteur en droit. Elle en est si entêtée qu'elle en perdra l'esprit, assurément. « Et dites-moi, ma bonne, » interrompit Aurore avec précipitation, « est-il de son côté fort amoureux d'elle ?»« Il l'aimait, » répondit Bernarda Ramirez, « avant son départ pour Madrid. » Mais je ne sais s'il l'aime encore, car il est un peu sujet à caution. Il court de femme en femme, comme tous les jeunes cavaliers ont coutume de faire. » La bonne veuve n'avait pas achevé de parler que nous entendîmes du bruit dans la cour. Nous regardâmes aussitôt par la fenêtre, et nous aperçûmes deux hommes qui descendaient de cheval. c'était Don Luis Pacheco lui-même, qui arrivait de Madrid avec un valet de chambre. La vieille nous quitta pour aller le recevoir, et ma maîtresse se disposa, non sans émotion, à jouer le rôle de Don Félix. Nous vîmes bientôt entrer dans notre appartement Don Luis, encore tout beauté. « Je viens d'apprendre, » dit-il en saluant Aurore, « qu'un jeune seigneur tolédan est logé dans cet hôtel. Il veut bien que je lui témoigne la joie que j'ai de loger avec lui. » Pendant que ma maîtresse répondait à ce compliment, Pacheco me parut surpris de trouver un cavalier si aimable. Aussi ne put-il s'empêcher de lui dire qu'il n'en avait jamais vu de si beau ni de si bien fait. Après fort discours, plein de politesse de part et d'autre, Don Luis se retira dans l'appartement qui lui était destiné. Tandis qu'il y faisait ôter ses bottes et changeait d'habits et de linge, une espèce de page, qui le cherchait pour lui rendre une lettre, rencontra par hasard Aurore sur l'escalier. Il la prit pour Don Luis et, lui remettant le billet dont il était chargé, « Tenez, seigneur cavalier, lui dit-il, « quoique je ne connaisse pas le seigneur Pacheco, je ne crois pas avoir besoin de vous demander si vous l'êtes. Sur le portrait qu'on m'a fait de ce seigneur, je suis persuadé que je ne me trompe point. »«
Non, mon ami, » répondit ma maîtresse avec une présence d'esprit admirable, « vous ne vous trompez pas, assurément. Vous vous acquittez de vos missions à merveille. Vous avez fort bien deviné que je suis Don Luis Pacheco. Allez, j'aurai soin de faire tenir ma réponse. »
Le page disparut, et Aurore, s'enfermant avec sa suivante et moi, ouvrit la lettre et nous lut ces paroles.
« Je viens d'apprendre que vous êtes à Salamanque. Avec quelle joie j'ai reçu cette nouvelle. J'en ai pensé devenir folle. Mais aimez-vous encore Isabelle? Hâtez-vous de l'assurer que vous n'avez point changé. Je crois qu'elle mourra de plaisir si elle vous retrouve fidèle. »
« Le billet est passionné, » dit Aurore. « Il marque une âme bien éprise. Cette dame est une rivale qui doit m'alarmer. Il faut que je n'épargne rien pour en détacher Don Luis et pour empêcher même qu'il ne la revoie. L'entreprise, je l'avoue, est difficile. Cependant, je ne désespère pas d'en venir à bout. »
Ma maîtresse se mit à rêver là-dessus, et un moment après, elle ajouta « Je vous l'ai garanti brouillé en moins de 24 heures. »
En effet, Pacheco, s'étant un peu reposé dans son appartement, vint nous retrouver dans le nôtre et renoua l'entretien avec Aurore avant le souper. « Seigneur cavalier, lui dit-il en plaisantant, je crois que les maris et les amants ne doivent pas se réjouir de votre arrivée à Salamanque. Vous allez leur causer de l'inquiétude. Pour moi, je tremble pour mes conquêtes. »
« Écoutez, lui répondit ma maîtresse sur le même ton, votre crainte n'est pas mal fondée. Don Félix de Mondoch est un peu redoutable, je vous en avertis. Je suis déjà venu dans ce pays-ci. Je sais que les femmes n'y sont pas insensibles. »
« Quelle preuve en avez-vous ? » interrompit Don Luis avec vivacité.
« Une preuve démonstrative, » répartit la fille de Don Vincent. « Il y a un mois que je passais par cette ville, je m'y arrêtai 8 jours, et je vous dirai confidemment que j'enflammais la fille d'un vieux docteur en droit. »
Je m'aperçus à ces paroles que Don Luis se troubla.
« Peut-on, sans indiscrétion, reprit-il, vous demander le nom de la dame ?»«
Comment, sans indiscrétion ? » s'écria le faux Don Félix. « Pourquoi vous ferais-je un mystère de cela ? Me croyez-vous plus discret que les autres seigneurs de mon âge ? Ne me faites point cette injustice-là. D'ailleurs, l'objet entre nous ne mérite pas tant de ménagement. Ce n'est qu'une petite bourgeoise. Vous savez bien qu'un homme de qualité ne s'occupe pas sérieusement d'une grisette, et qu'il croit même lui faire honneur en la déshonorant. Je vous apprendrai donc, sans façon, que la fille du docteur se nomme Isabelle. »
Et le docteur ? Interrompit impatiemment Pacheco. S'appellerait-il le seigneur Murcia de la Llana ?
Justement, répliqua ma maîtresse. « Voici une lettre qu'elle m'a fait tenir tout à l'heure. Lisez-la, et vous verrez si la dame me veut du bien. »
Don Luis jeta les yeux sur le billet, et reconnaissant l'écriture, il demeura confus et interdit.
« Que vois-je ? » poursuivit alors Aurore d'un air étonné. « Vous changez de couleur, je crois. Dieu me pardonne que vous preniez intérêt à cette personne. Ah ! Que je me veux du mal de vous avoir parlé avec tant de franchise. »
« Je vous en sais très bon gré, moi, » dit Don Luis avec un transport mêlé de dépit et de colère.
« La perfide, la volage. Don Félix, que ne vous dois-je point ? Vous me tirez d'une erreur que j'aurais peut-être conservée encore longtemps. Je m'imaginais être aimée. Que dis-je, aimée ? Je croyais être adorée d'Isabelle. J'avais quelque estime pour cette créature-là, et je vois bien que ce n'est qu'une coquette, digne de tout mon mépris.
J'approuve votre ressentiment, dit Aurore en marquant à son tour de l'indignation. La fille d'un docteur en droit devrait bien se contenter d'avoir pour amant un jeune seigneur aussi aimable que vous l'êtes. Je ne puis excuser son inconstance.
Et bien loin d'agréer le sacrifice qu'elle me fait de vous, je prétends, pour la punir, dédaigner désormais ses bontés.
Pour moi, reprit Pacheco, je ne la reverrai de ma vie. C'est la seule vengeance que j'en dois tirer.
Vous avez raison, s'écria le faux Mandoz. Néanmoins, pour lui faire connaître jusqu'à quel point nous la méprisons tous deux, je suis d'avis que nous lui écrivions chacun un billet insultant. J'en ferai un paquet que je lui enverrai pour réponse à sa lettre.
Mais avant que nous en venions à cette extrémité, consultez votre cœur. Le sentez-vous assez détaché de votre infidèle pour ne craindre pas de vous repentir un jour de lui avoir rompu en visière ?
Non, non, interrompit Don Luis, je n'aurai jamais cette faiblesse, et je consens que pour mortifier l'ingrate, nous fassions ce que vous me proposez.
Aussitôt, j'allai chercher du papier et de l'encre. Et ils se mirent à composer l'un et l'autre des billets fort obligeants pour la fille du docteur Murcia de Lalanne. Pacheco, surtout, ne pouvait trouver des termes assez forts à son gré pour exprimer ses sentiments. Et il déchira 5 ou 6 lettres commencées parce qu'elles ne lui parurent pas assez dures. Il en fit pourtant une dont il fut content et dont il avait sujet de l'être. Elle contenait ces paroles. Apprenez à vous connaître, ma reine, et n'ayez plus la vanité de croire que je vous aime. Il faut un autre mérite que le vôtre pour m'attacher. Vous n'êtes pas même assez agréable pour m'amuser quelques moments. Vous n'êtes propre qu'à faire l'amusement des derniers écoliers de l'université. » Il écrivit donc ce billet gracieux. Et lorsque Aurore eut achevé le sien, qui n'était guère moins offensant, elle les cacheta tous deux, y mit une enveloppe, et me donnant le paquet, « Tiens, Gil Blas, me dit-elle, fais en sorte qu'Isabelle reçoive cela ce soir. Tu m'entends bien ? » ajouta-t-elle en me faisant des yeux un signe que je compris parfaitement.
« Oui, Seigneur, répondis-je, vous serez servi comme vous le souhaitez. »
Je sortis en même temps, et quand je fus dans la rue, je me dis,
« Oh, ça, monsieur Gil Blas, on met votre génie à l'épreuve. Vous faites donc le valet dans cette comédie ? Eh bien, mon ami, montrez que vous avez assez d'esprit pour remplir un rôle qui en demande beaucoup. Le seigneur Don Félix est contenté de vous faire un signe. Il compte, comme vous voyez, sur votre intelligence. A-t-il tort ? Non. Je conçois ce qu'il attend de moi. Il veut que je fasse tenir seulement le billet de Don Luis. C'est ce que signifie ce signe-là. Rien n'est plus intelligible. » Persuadé que je ne me trompais pas, je ne balançai point à défaire le paquet. Je tirai la lettre de Pacheco et je la portai chez le docteur Murcia, dont j'eus bientôt appris la demeure. Je trouvai à la porte de sa maison le petit page qui était venu à l'hôtel Garni. « Frère, lui dis-je, ne seriez-vous point par hasard domestique de la fille de monsieur le docteur Murcia ? » Il me répondit que oui, d'un air qui marquait assez qu'il était dans l'habitude de porter et de recevoir des lettres galantes.
« Vous avez, lui répliquai-je, la physionomie si officieuse que j'ose vous prier de rendre ce billet doux à votre maîtresse. » Le petit page me demanda de quelle part je la portais, et je ne lui eus pas sitôt reparti que c'était de celle de Don Luis Pacheco qu'il me dit « Cela étant, suivez-moi, j'ai ordre de vous faire entrer. Isabelle veut vous entretenir. »
Je me laissai introduire dans un cabinet où je ne tardai guère à voir paraître la signora. Je fus frappé de la beauté de son visage. Je n'ai point vu de trait plus délicat. Elle avait un air mignon et enfantin. Mais cela n'empêchait pas que depuis 30 bonnes années pour le moins, elle ne marchât sans lisière.
« Mon ami, me dit-elle d'un air riant, appartenez-vous à Don Luis Pacheco ? »
Je lui répondis que j'étais son valet de chambre depuis 3 semaines. Ensuite, je lui remis le billet fatal dont j'étais chargé. Elle le relut 2 ou 3 fois. Il semblait qu'elle se défiât du rabord de ses yeux. Effectivement, elle ne s'attendait à rien moins qu'à une pareille réponse. Elle éleva ses regards vers le ciel, se mordit les lèvres, et pendant quelque temps, sa contenance rendit témoignage des peines de son cœur. Puis tout à coup, m'adressant la parole, « Mon ami, me dit-elle, Don Luis est-il devenu fou depuis notre séparation ? Je ne comprends rien à son procédé. Apprenez-moi, si vous le savez, pourquoi il m'écrit si galamment. Et quel démon peut l'agiter ? S'il veut rompre avec moi, ne saurait-il le faire sans m'outrager par des lettres si brutales ?»«
Madame, lui dis-je en affectant un air plein de sincérité, mon maître a tort assurément, mais il a été en quelque façon forcé de le faire. Si vous me promettiez de garder le secret, je vous découvrirais tout le mystère. »
« Je vous le promets, interrompit-elle avec précipitation. Ne craignez point que je vous commette, expliquez-vous hardiment. »
« Eh bien, repris-je, voici le fait en 2 mots. Un moment après votre lettre reçue, il est entré dans notre hôtel une dame couverte d'une mante des plus épaisses. Elle a demandé le seigneur Pacheco, lui a parlé quelque temps en particulier, et sur la fin de la conversation, j'ai entendu qu'elle lui a dit « Vous me jurez que vous ne la reverrez jamais. »
Ce n'est pas tout. Il faut pour ma satisfaction que vous lui écriviez tout à l'heure un billet que je vais vous dicter. J'exige cela de vous. »
Don Luis a fait ce qu'elle désirait. Puis, me mettant le papier entre les mains, « Informe-toi, m'a-t-il dit, où demeure le docteur Murcia de la Lana et fais adroitement tenir ce poulet à sa fille Isabelle. »
« Vous voyez bien, madame, poursuivis-je, que cette lettre désobligeante est l'ouvrage d'une rivale, et que par conséquent, mon maître n'est pas si coupable. »
« Oh, ciel ! S'écria-t-elle. « Il l'est encore plus que je ne pensais. Son infidélité m'offense plus que les mots piquants que sa main a tracés. Ah, oh, l'infidèle ! Il a pu former d'autres nœuds. »
« Mais, ajouta-t-elle en prenant un air fier, et qu'il s'abandonne sans contrainte à son nouvel amour. Je ne prétends point le traverser. Dites-lui, je vous prie, qu'il n'avait pas besoin de m'insulter pour m'obliger à laisser le champ libre à ma rivale, et que je méprise trop un amant volage pour avoir la moindre envie de le rappeler. »
À ce discours, elle me congédia et se retira, fort irritée, contre Don Luis. Je sortis de chez le docteur Murcia de la Lana, fort satisfait de moi, et je compris que si je voulais me mettre dans le génie, je deviendrais un habile fourbe. Je m'en retournai à notre hôtel, où je trouvai les seigneurs, Mandos et Pacheco, qui soupaient ensemble et s'entretenaient comme s'ils se fussent connus de longue main. Aurore s'aperçut, à mon air content, que je ne m'étais point mal acquitté de ma commission.
« Te voilà donc de retour, Gil Blas ? » me dit-elle. « Rends-nous compte de ton message. »
Il fallut encore payer d'esprit. Je dis que j'avais donné le paquet en main propre, et qu'Isabelle, après avoir lu les 2 billets qu'il contenait, au lieu d'en paraître déconcertée, s'était mise à rire comme une folle, en disant « Par ma foi, les jeunes seigneurs ont un joli style. Il faut avouer que les autres personnes n'écrivent pas si agréablement. »
« C'est fort bien se tirer d'embarras !» s'écria ma maîtresse.
Et voilà son art. Pour moi, dit Don Luis, je ne reconnais point Isabelle à ces traits-là. Il faut qu'elle ait changé de caractère pendant mon absence.
J'aurais jugé d'elle aussi tout autrement, reprit Aurore.
Convenons qu'il y a des femmes qui savent prendre toutes sortes de formes. J'en ai aimé une de celles-là, et j'en ai été longtemps la dupe. Gil Blas vous le dira, elle avait un air de sagesse à tromper toute la terre.
« Il est vrai, » dis-je en me mêlant à la conversation, « que c'était un minois à piper les plus fins. J'y aurais moi-même été attrapé. »
Le faux Mandoche et Pacheco firent de grands éclats de rire en m'entendant parler ainsi. Et loin de trouver mauvais que je prisse la liberté de me joindre à leur entretien, ils m'adressèrent souvent la parole pour se réjouir de mes réponses. Nous continuâmes à nous entretenir des femmes qui ont l'art de se masquer. Et le résultat de tous nos discours fut qu'Isabelle demeura dûment atteinte et convaincue d'être une franche coquette. Don Luis protesta de nouveau qu'il ne la reverrait jamais. Et Don Félix, à son exemple, jura qu'il aurait toujours pour elle un parfait mépris. Ensuite de ces protestations, ils se lièrent d'amitié tous deux et se promirent mutuellement de n'avoir rien de caché l'un pour l'autre. Ils passèrent l'après-souper à se dire des choses gracieuses et enfin ils se séparèrent pour s'aller reposer chacun dans son appartement. Je servis Aurore dans le sien où je lui rendis un compte exact de l'entretien que j'avais eu avec la fille du docteur. Je n'oubliais pas la moindre circonstance. J'en dis même plus qu'il n'y en avait, pour mieux faire ma cour à ma maîtresse, qui fut charmée de mon rapport. Peu s'en fallut qu'elle ne m'embrassât de joie. « Mon cher Gil Blas, me dit-elle, je suis enchantée de ton esprit. Quand on a le malheur d'être engagé dans une passion qui nous oblige de recourir à des stratagèmes, quel avantage d'avoir dans ses intérêts un garçon aussi spirituel que toi. Courage, mon ami. Nous venons d'écarter une rivale qui pouvait nous embarrasser. Cela ne va pas mal. Mais comme les amants sont sujets à d'étranges retours, je suis d'avis de brusquer l'aventure et de mettre en jeu dès demain Aurore de Guzman. » J'approuvai cette pensée, et laissant le seigneur Don Félix avec son page, je me retirai dans un cabinet où était mon lit. Chapitre 6. Quelle ruse Aurore mit en usage pour se faire aimer de Don Luis Pacheco. Les deux nouveaux amis se rassemblèrent le lendemain matin. Ce fut leur premier soin. Ils commencèrent la journée par des embrassades qu'Aurore fut obligée de donner et de recevoir pour bien jouer le rôle de Don Félix. Ils allèrent ensemble se promener dans la ville et je les accompagnai avec Chilindron, valet de Don Luis. Nous nous arrêtâmes auprès de l'université pour regarder quelques affiches de livres qu'on venait d'attacher à la porte. Plusieurs personnes s'amusaient aussi à les lire, et j'aperçus parmi celles-là un petit homme qui disait son sentiment sur ses ouvrages affichés. Je remarquai qu'on l'écoutait avec une extrême attention, et je jugeai en même temps qu'il croyait mériter qu'on l'écoutât. Il paraissait vain, et il avait l'esprit décisif, comme ont la plupart des petits hommes. « Cette nouvelle traduction d'Horace, disait-il, que vous voyez annoncée au public en si gros caractères, est un ouvrage en prose composé par un vieil auteur du collège. C'est un livre fort estimé des écoliers. Ils en ont consumé eux seuls 4 éditions. Il n'y a pas un honnête homme qui en ait acheté un exemplaire. » Il ne portait pas des jugements plus avantageux des autres livres. Il les frondait tous sans charité. C'était apparemment quelque auteur. Je n'aurais pas été fâché de l'entendre jusqu'au bout, mais il me fallut suivre Don Luis et Don Félix, qui, ne prenant pas plus de plaisir à ses discours que d'intérêt aux livres qu'ils critiquaient, s'éloignèrent de lui et de l'université. Nous revînmes à notre hôtel à l'heure du dîner. Ma maîtresse se mit à table avec Pacheco et fit tomber adroitement la conversation sur sa famille. « Mon père, dit-elle, est un cadet de la maison de Mandos, qui s'est établi à Tolède, et ma mère est propre sœur de Dona Ximena de Guzman, qui, depuis quelques jours, est venue à Salamanque pour une affaire importante, avec sa nièce, Aurore, fille unique de Don Vincent de Guzman, que vous avez peut-être connue. » « Non, répondit Don Luis, mais on m'en a souvent parlé, ainsi que d'Aurore, votre cousine. Dois-je croire ce qu'on dit de cette jeune dame? On assure que rien n'égale son esprit et sa beauté.
Pour de l'esprit, reprit Don Félix, elle n'en manque pas. Elle l'a même assez cultivée. Mais ce n'est point une si belle personne. On trouve que nous nous ressemblons beaucoup.
Si cela est, s'écria Pachecot, elle justifie sa réputation. Vos traits sont réguliers, votre teint est parfaitement beau, votre cousine doit être charmante. Je voudrais bien la voir et l'entretenir.
Je m'offre à satisfaire votre curiosité, repartit le faux Mandos, et même dès ce jour. Je vous mène cet après-midi chez ma tante.
Ma maîtresse changea tout à coup de matière et parla de choses indifférentes. L'après-midi, pendant qu'ils se disposaient tous deux à sortir pour aller chez Donna Ximena, je pris les devants et courus avertir la duègne de se préparer à cette visite. Je revins ensuite sur mes pas pour accompagner Don Félix, qui conduisit enfin chez sa tante, le seigneur Don Luis. Mais à peine furent-ils entrés dans la maison qu'ils rencontrèrent la dame Chimène, qui leur fit signe de ne point faire de bruit.
« Paix, paix !» leur dit-elle d'une voix basse. « Vous réveilleriez ma nièce. Elle a depuis hier une migraine effroyable qui ne fait que de la quitter. Et la pauvre enfant repose depuis un quart d'heure. »
« Je suis fâchée de ce contretemps, » dit Mandos en affectant un air mortifié. « J'espérais que nous verrions ma cousine. » J'avais fait fête de ce plaisir à mon ami Pachecot.
Ce n'est pas une affaire si pressée, répondit en souriant Ortiz. Vous pouvez la remettre à demain.
Les cavaliers eurent une conversation fort courte avec la vieille et se retirèrent. Don Luis nous mena chez un jeune gentilhomme de ses amis qu'on appelait Don Gabriel de Pedros. Nous y passâmes le reste de la journée. Nous y soupâmes même. Et nous n'en sortîmes que sur les 2 heures après minuit pour nous en retourner au logis. Nous avions peut-être fait la moitié du chemin lorsque nous rencontrâmes sous nos pieds, dans la rue, 2 hommes étendus par terre. Nous jugeâmes que c'étaient des malheureux qu'on venait d'assassiner et nous nous arrêtâmes pour les secourir, s'il en était encore temps. Comme nous cherchions à nous instruire, autant que l'obscurité de la nuit le pouvait permettre, de l'état où il se trouvait, la patrouille arriva. Le commandant nous prit d'abord pour des assassins et nous fit environner par ses gens. Mais il eut meilleure opinion de nous lorsqu'il nous eut entendu parler et qu'à la faveur d'une lanterne sourde, il vit les traits de Mandos et de Pachecot. Ses archers, par son ordre, examinèrent les 2 hommes que nous nous imaginions avoir été tués. Et il se trouva que c'était un gros licencié avec son valet, tous 2 pris de vin, ou plutôt ivres morts. « Messieurs, s'écria un des archers, je reconnais ce gros vivant. C'est le seigneur licencié Guyomard, recteur de notre université. Tel que vous le voyez, c'est un grand personnage, un génie supérieur. Il n'y a point de philosophe qu'il ne terrasse dans une dispute. Il a un flux de bouche sans pareil. C'est dommage qu'il aime un peu trop le vin. » Le procès et la grisette. Il revient de souper de chez son Isabelle, où par malheur son guide s'est enivré comme lui. Ils sont tombés l'un et l'autre dans le ruisseau. Avant que le bon licencié fût recteur, cela lui arrivait assez souvent. Les honneurs, comme vous voyez, ne changent pas toujours les mœurs. Nous laissâmes ces ivrognes entre les mains de la patrouille, qui eut soin de les porter chez eux. Nous regagnâmes notre hôtel, et chacun ne songea qu'à se reposer. Don Félix et Don Luis se levèrent sur le midi, et s'étant tous deux rejoints, Aurore de Guzman fut la première chose dont ils s'entretinrent. « Gil Blas, me dit ma maîtresse, va chez ma tante Donna Ximena, et lui demande de ma part si nous pouvons aujourd'hui, le seigneur Pachecot et moi, voir ma cousine. » Je sortis pour m'acquitter de cette commission, ou plutôt pour concerter avec la duègne de ce que nous avions à faire. Et quand nous eûmes pris ensemble de justes mesures, je vins rejoindre le faux Mandos. « Seigneur, lui dis-je, Votre cousine Aurore se porte à merveille. Elle m'a chargé elle-même de vous témoigner de sa part que votre visite ne lui saurait être que très agréable. Et Dona Ximena m'a dit d'assurer le seigneur Pacheco qu'il sera toujours parfaitement bien reçu chez elle sous vos auspices. » Je m'aperçus que ces dernières paroles firent plaisir à Don Luis. Ma maîtresse le remarqua de même et en conçut un heureux présage. Un moment avant le dîner, le valet de la señora Ximena parut et dit à Don Félix « Seigneur, un homme de Tolède est venu vous demander chez madame votre tante, et il y a laissé ce billet. » Le faux Mandos l'ouvrit et y trouva ces mots qu'il lut à haute voix. « Si vous avez envie d'apprendre des nouvelles de votre père et des choses de conséquence pour vous, ne manquez pas, aussitôt la présente reçue, de vous rendre au Cheval Noir auprès de l'université. » « Je suis, dit-il, trop curieux de savoir ces choses importantes pour ne pas satisfaire ma curiosité tout à l'heure. « Sans adieu, Pacheco, continua-t-il, si je ne suis point de retour ici dans 2 heures, vous pourrez aller seul chez ma tante. J'irai vous y rejoindre dans l'après-dîner. Vous savez ce que Gil Blas vous a dit de la part de Dona Ximena. Vous êtes en droit de faire cette visite. » Il sortit en parlant de cette sorte, et m'ordonna de le suivre. Vous vous imaginez bien qu'au lieu de prendre la route du Cheval Noir, nous enfilâmes celle de la maison où était Ortiz. D'abord que nous y fûmes arrivés, nous nous préparâmes à représenter notre pièce. Aurore ôta sa chevelure blonde, lava et frotta ses sourcils, mit un habit de femme et devint une belle brune, telle qu'elle l'était naturellement. On peut dire que son déguisement la changeait à un point qu'Aurore et Don Félix paraissaient 2 personnes différentes. Il semblait même qu'elle fût beaucoup plus grande en femme qu'en homme. Il est vrai que ses chapins, car elle en avait d'une hauteur excessive, n'y contribuaient pas peu. Lorsqu'elle eut ajouté à ses charmes tous les recours que l'art pouvait leur prêter, elle attendit Don Luis avec une agitation mêlée de crainte et d'espérance. Tantôt elle se fiait à son esprit et à sa beauté, et tantôt elle appréhendait de n'en faire qu'un essai malheureux. Ortiz, de son côté, se prépara de son mieux à seconder ma maîtresse. Pour moi, comme il ne fallait pas que Pacheco me vît dans cette maison, et que, semblable aux acteurs qui ne paraissaient qu'au dernier acte d'une pièce, je ne devais me montrer que sur la fin de la visite, je sortis aussitôt que j'eus dîné. Enfin, tout était en état quand Don Luis arriva. Il fut reçu très agréablement de la dame Chimène, et il eut avec Aurore une conversation de 2 ou 3 heures, après quoi j'entrai dans la chambre où ils étaient, et m'adressant au cavalier, « Seigneur, lui dis-je, Don Félix, mon maître, ne viendra point ici aujourd'hui, il vous prie de l'excuser. Il est avec 3 hommes de Tolède dont il ne peut se débarrasser. » « Ah, le petit libertin !» s'écria Dona Ximena. « Il est sans doute en débauche. »« Non, madame, repris-je, il s'entretient avec eux d'affaires fort sérieuses. Il a un véritable chagrin de ne pouvoir se rendre ici. Il m'a chargé de vous le dire, aussi bien qu'à Dona Aurora. » « Oh, je ne reçois point ses excuses, » dit ma maîtresse en plaisantant. « Il sait que j'ai été indisposée. Il devait marquer un peu plus d'empressement. » Pour les personnes à qui le sang le lie. Pour le punir, je ne le veux voir de 15 jours. Eh, madame, dit alors Don Luis, ne formez point une si cruelle résolution. Don Félix est assez à plaindre de ne vous avoir pas vu. Ils plaisantèrent quelque temps là-dessus. Ensuite, Pacheco se retira. La belle Aurore change aussitôt de forme et reprend son habit de cavalier. Elle retourna à l'hôtel garni le plus promptement qu'il lui est possible. « Je vous demande pardon, cher ami, » dit-elle à Don Luis, « de ne vous avoir pas été trouvé chez ma tante, mais je n'ai pu me défaire des personnes avec qui j'étais. Ce qui me console, c'est que vous avez eu du moins tout le loisir de satisfaire vos désirs curieux. Eh bien, que pensez-vous de ma cousine? Dites-le-moi sans complaisance. » « J'en suis enchantée. » répondit Pacheco. Vous aviez raison de dire que vous vous ressemblez tous deux. Je n'ai jamais vu de traits plus semblables. C'est le même tour de visage, vous avez les mêmes yeux, la même bouche, le même son de voix. Il y a pourtant quelques différences. Aurore est plus grande que vous. Elle est brune et vous êtes blond. Vous êtes enjouée, elle est sérieuse. Voilà tout ce qui vous distingue l'un de l'autre.
Pour de l'esprit, continua-t-il, je ne crois pas qu'une substance céleste puisse en avoir plus que votre cousine. En un mot, c'est une personne d'un mérite infini.
Le seigneur Pachecot prononça ces dernières paroles avec tant de vivacité que Don Félix lui dit en souriant
« Ami, je me repens de vous avoir fait faire connaissance avec Donna Ximena, et si vous m'en croyez, vous n'irez plus chez elle. Je vous le conseille pour votre repos. Aurore de Guzman pourrait vous faire voir du pays et vous inspirer une passion. »
« Je n'ai pas besoin de la revoir, interrompit-il, pour en devenir amoureux. L'affaire en est faite. »
« J'en suis fâché pour vous, répliqua le faux Mandos, car vous n'êtes pas un homme à vous attacher, et ma cousine n'est pas une Isabelle, je vous en avertis. Elle ne s'accommoderait pas d'un amant qui n'aurait pas des vues légitimes. »
« Des vues légitimes ? » repartit Don Luis. « Peut-on en avoir d'autres sur une fille de son sang ? C'est me faire une offense que de me croire capable de jeter sur elle un œil profane. Connaissez-moi mieux, mon cher Mandos. Hélas, je m'estimerais le plus heureux de tous les hommes si elle approuvait ma recherche et voulait lier sa destinée à la mienne. »
En la prenant sur ce ton-là, reprit Don Félix, vous m'intéressez à vous servir. Oui, j'entre dans vos sentiments. Je vous offre mes bons offices auprès d'Aurore. Et je veux dès demain essayer de gagner ma tante, qui a beaucoup de crédit sur son esprit. »
Pachecot rendit mille grâces au cavalier qui lui faisait de si belles promesses, et nous nous aperçûmes avec joie que notre stratagème ne pouvait aller mieux. Le jour suivant, nous augmentâmes encore l'amour de Don Luis par une nouvelle invention. Ma maîtresse, après avoir été trouvée Donna Ximena, comme pour la rendre favorable à ce cavalier, vint le rejoindre.
« J'ai parlé à ma tante, lui dit-elle, et je n'ai pas eu peu de peine à la mettre dans vos intérêts. Elle était furieusement prévenue contre vous. Je ne sais qui vous a fait passer dans son esprit pour un libertin, mais il est constant que quelqu'un lui a fait de vous un portrait désavantageux. Heureusement, j'ai entrepris votre apologie. Et j'ai pris si vivement votre parti que j'ai détruit enfin la mauvaise impression qu'on lui avait donnée de vos mœurs.
Ce n'est pas tout, poursuivit Aurore. Je veux que vous ayez, en ma présence, un entretien avec ma tante. Nous achèverons de vous assurer son appui.
Pachecot témoigna une extrême impatience d'entretenir Donna Ximena, et cette satisfaction lui fut accordée le lendemain matin. Le faux Mandos le conduisit à la dame Ortiz et ils eurent tous trois une conversation où Don Luis fit voir qu'en peu de temps, il s'était laissé fort enflammer. La droite Ximena finit d'être touchée de toute la tendresse qu'il faisait paraître et promit au cavalier de faire tous ses efforts pour engager sa nièce à l'épouser. Pachecot se jeta aux pieds d'une si bonne tante pour la remercier de ses bontés. Là-dessus, Don Félix demanda si sa cousine était levée.
« Non, répondit la duègne, elle repose encore, et vous ne sauriez la voir présentement. Mais revenez cet après-dîner, et vous lui parlerez à loisir. »
Cette réponse de la dame Ximène redoubla, comme vous pouvez croire, la joie de Don Luis, qui trouva le reste de la matinée bien long. Il regagna l'hôtel garni avec Mandos, qui ne prenait pas peu de plaisir à l'observer, et à remarquer en lui toutes les apparences d'un véritable amour. Ils ne s'entretinrent que d'Aurore. Et lorsqu'ils eurent dîné, Don Félix dit à Pachecot « Il me vient une idée. Je suis d'avis d'aller chez ma tante quelques moments avant vous. Je veux parler en particulier à ma cousine, et découvrir, s'il est possible, dans quelle disposition son cœur est à votre égard. »
Don Luis approuva cette pensée. Il laissa sortir son ami et ne partit qu'une heure après lui. Ma maîtresse profita si bien de ce temps-là qu'elle était habillée en femme quand son amant arriva.
« Je croyais, dit ce cavalier après avoir salué Aurore et la Duègne. « Je croyais trouver ici Don Félix. »«
Vous le verrez dans un instant, » répondit Dona Ximena.
« Il écrit dans mon cabinet. »
Pacheco parut se payer de cette défaite et lia conversation avec les dames. Cependant, malgré la présence de l'objet aimé, il s'aperçut que les heures s'écoulaient sans que Mandos se montrât. Et comme il ne put s'empêcher de témoigner quelque surprise, Aurore changea tout à coup de contenance, se mit à rire et dit à Don Luis « Est-il possible que vous n'ayez pas encore le moindre soupçon de la supercherie qu'on vous fait ?»«
Une fausse chevelure blonde et des sourcils teints me rendent-ils si différente de moi-même qu'on puisse jusque-là s'y tromper ?»«
Désabusez-vous donc, Pacheco » continua-t-elle en reprenant son sérieux. « Apprenez que Don Félix de Mandos et Aurore de Guzman ne sont qu'une même personne. »
Elle ne se contenta pas de le tirer de cette erreur. Elle avoua la faiblesse qu'elle avait pour lui et toutes les démarches qu'elle avait faites pour l'amener au point où elle le voulait. Don Luis ne fut pas moins charmé que surpris de ce qu'il venait d'entendre. Il se jeta aux pieds de ma maîtresse et lui dit avec transport « Ah, belle Aurore ! Croirais-je en effet que je suis l'heureux mortel pour qui vous avez eu tant de bonté ? Que puis-je faire pour les connaître ? Un éternel amour ne saurait assez les payer. »
Ces paroles furent suivies de mille autres discours, tendres et passionnés. Après quoi, les amants parlèrent des mesures qu'ils avaient à prendre pour parvenir à l'accomplissement de leurs désirs. Il fut résolu que nous partirions tous incessamment pour Madrid, où nous dénouerions notre comédie par un mariage. Ce dessein fut presque aussitôt exécuté que conçu. Don Luis, 15 jours après, épousa ma maîtresse, et leurs noces donnèrent lieu à des fêtes et à des réjouissances infinies.
Chapitre 7. Gil Blas change de condition et il passe au service de Don Gonzalo Pacheco. 3 semaines après ce mariage, ma maîtresse voulut récompenser les services que je lui avais rendus. Elle me fit présent de 100 pistoles et me dit « Gil Blas, mon ami, je ne vous chasse point de chez moi. Je vous laisse la liberté d'y demeurer tant qu'il vous plaira. Mais un oncle de mon mari, Don Gonzalo Pacheco, souhaite de vous avoir pour valet de chambre. Je lui ai parlé si avantageusement de vous qu'il m'a témoigné que je lui ferais plaisir de vous donner à lui. C'est un seigneur de la vieille cour, » ajouta-t-elle, « un homme d'un très bon caractère. Vous serez parfaitement bien auprès de lui. » Je remerciai Aurore de ses bontés, et comme elle n'avait plus besoin de moi, j'acceptai d'autant plus volontiers le poste qui se présentait que je ne sortais point de la famille. J'allai donc un matin, de la part de la nouvelle mariée, chez le seigneur Don Gonzalo. Il était encore au lit, quoiqu'il fût près de midi. Lorsque j'entrai dans sa chambre, je le trouvai qui prenait un bouillon qu'un page venait de lui apporter. Le vieillard avait la moustache en papillote, les yeux presque éteints, avec un visage pâle et décharné. C'était un de ces vieux garçons qui ont été fort libertins dans leur jeunesse et qui ne sont guère plus sages dans un âge plus avancé. Il me reçut agréablement et me dit que si je voulais le servir avec autant de zèle que j'avais servi sa nièce, je pouvais compter qu'il me ferait un heureux sort. Sur cette assurance, je promis d'avoir pour lui le même attachement que j'avais eu pour elle, et dès ce moment, il me retint à son service. Me voilà donc à un nouveau maître, et Dieu sait quel homme c'était. Quand il se leva, je crus voir la résurrection du Lazare. Imaginez-vous un grand corps, si sec, qu'en le voyant à nu, on aurait fort bien pu apprendre l'ostéologie. Il avait les jambes si menues qu'elles me parurent encore très fines après qu'il eut mis 3 ou 4 paires de bas l'une sur l'autre. Outre cela, cette momie vivante était asthmatique et toussait à chaque parole qui lui sortait de la bouche. Il prit d'abord du chocolat. Il demanda ensuite du papier et de l'encre, écrivit un billet qu'il cacheta et le fit porter à son adresse par le page qui lui avait donné un brouillon. Puis, se tournant de mon côté,
« Mon ami, me dit-il, c'est toi que je prétends désormais charger de mes commissions, et particulièrement de celles qui regarderont Donna Euphrasia. Cette dame est une jeune personne que j'aime et dont je suis tendrement aimée. »
« Bon Dieu, dis-je aussitôt en moi-même, comment les jeunes gens pourront-ils s'empêcher de croire qu'on les aime, puisque ce vieux peinard s'imagine qu'on l'idolâtre ?»«
Gil Blas, poursuivit-il, je te mènerai chez elle dès aujourd'hui, j'y soupe presque tous les soirs. Tu verras une personne tout aimable, tu seras charmé de son air sage et retenu. Bien loin de ressembler à ces petites étourdies qui donnent dans la jeunesse et s'engagent sur les apparences, elle a l'esprit déjà mûr et judicieux. Elle veut des sentiments dans un homme, et préfère aux figures les plus brillantes un amant qui sait aimer. » Le seigneur Don Gonzale ne borna point là l'éloge de sa maîtresse. Il entreprit de la faire passer pour l'abréger de toutes les perfections. Mais il avait un auditeur assez difficile à persuader là-dessus. Après toutes les manœuvres que j'avais vues faire aux comédiennes, je ne croyais pas les vieux seigneurs fort heureux en amour. Je feignis pourtant, par complaisance, d'ajouter foi à tout ce que me dit mon maître. Je fis plus, je vantai le discernement et le bon goût d'Euphrasie. Je fus même assez imprudent pour avancer qu'elle ne pouvait avoir de galant plus aimable. Le bonhomme ne sentit point que je lui donnais de l'encensoir par le nez. Au contraire, il s'applaudit de mes paroles. Tant il est vrai qu'un flatteur peut tout risquer avec les grands. Il se prête jusqu'aux flatteries les plus outrées. Le vieillard, après avoir écrit, s'arracha quelques poils de la barbe avec des pincettes. Puis il se lava les yeux pour ôter une épaisse châssis dont ils étaient pleins. Il lava aussi ses oreilles, ensuite ses mains. Et quand il eut fait toutes ses ablutions, il teignit en noir sa moustache, ses sourcils et ses cheveux. Il fut plus longtemps à sa toilette qu'une vieille douairière qui s'étudie à cacher l'outrage des années. Comme il achevait de s'ajuster, il entra un autre vieillard de ses amis qu'on nommait le comte d'Assumard. Quelle différence il y avait entre eux! Celui-ci laissait voir ses cheveux blancs, s'appuyait sur un bâton et semblait se faire honneur de sa vieillesse, au lieu de vouloir paraître jeune. « Seigneur Pacheco, dit-il en entrant, je viens vous demander à dîner. »«
Soyez le bienvenu, comte, répondit mon maître. »
En même temps, ils s'embrassèrent l'un l'autre, s'assirent et commencèrent à s'entretenir en attendant qu'on servît. Leur conversation roula d'abord sur une course de taureaux qui s'était faite depuis peu de temps. Ils parlèrent des cavaliers qui avaient montré le plus d'adresse et de vigueur. Et là-dessus, le vieux comte, tel que Nestor, à qui toutes les choses présentes donnaient occasion de louer les choses passées, dit en soupirant « Hélas, je ne vois point aujourd'hui d'hommes comparables à ceux que j'ai vus autrefois. Ni les tournois ne se font pas avec autant de magnificence qu'on les faisait dans ma jeunesse. » Je riais en moi-même de la prévention du bon seigneur d'Assumard, qui ne s'en tint pas au tournoi. Je me souviens, quand il fut à table et qu'on apporta le fruit, qu'il dit en voyant de fort belles pêches qu'on avait servies. « De mon temps, les pêches étaient bien plus grosses qu'elles ne le sont à présent. La nature s'affaiblit de jour en jour. » « Sur ce pied-là, dis-je alors en moi-même en souriant, les pêches du temps d'Adam devaient être d'une grosseur merveilleuse. » Le comte d'Assumard demeura presque jusqu'au soir avec mon maître, qui ne se vit pas plus tôt débarrassé de lui qu'il sortit en me disant de le suivre. Nous allâmes chez Euphrasie, qui logeait à 100 pas de notre maison, et nous la trouvâmes dans un appartement des plus propres. Elle était galamment habillée et avait un air de jeunesse qui me la fit prendre pour une mineure, bien qu'elle eût 30 bonnes années pour le moins. Elle pouvait passer pour jolie, et j'admirai bientôt son esprit. Ce n'était pas une de ces coquettes qui n'ont qu'un babil brillant avec des manières libres. Elle avait de la modestie dans son action comme dans ses discours, et elle parlait le plus spirituellement du monde, sans paraître se donner pour spirituelle. Je la considérais avec un extrême étonnement.
« Ô ciel !
disais-je, est-il possible qu'une personne qui se montre si réservée soit capable de vivre dans le libertinage? Je m'imaginais que toutes les femmes galantes devaient être effrontées. J'étais surpris d'en voir une modeste en apparence, sans faire réflexion que ces créatures savent se composer et se conformer au caractère des gens riches et des seigneurs qui tombent entre leurs mains. Ces payeurs veulent-ils de l'emportement? Elles sont vives et pétillantes. Aiment-ils la retenue? Elles se parent d'un extérieur sage et vertueux. Ce sont de vrais caméléons qui changent de couleur suivant l'humeur et le génie des hommes qui les approchent. Don Gonzalo n'était pas du tout des seigneurs qui demandent des beautés hardies. Il ne pouvait souffrir celle-là. Et il fallait, pour le piquer, qu'une femme eût un air de vestale. Aussi, Euphrasie, se réglant là-dessus, faisait voir que les bonnes comédiennes n'étaient pas toutes à la comédie. Je laissai mon maître avec sa nymphe et je descendis dans une salle où je trouvai une vieille femme de chambre, que je reconnus pour une soubrette qui avait été suivante d'une comédienne. De son côté, elle me remit et nous fîmes une scène de reconnaissance digne d'être employée dans une pièce de théâtre. « Et vous voilà, seigneur Gil Blas, » me dit cette soubrette transportée de joie. « Vous êtes donc sorti de chez Arsénie, comme moi de chez Constance ?»« Oh, vraiment, » lui répondis-je, « il y a longtemps que je l'ai quittée. J'ai même servi depuis une fille de condition. La vie des personnes de théâtre n'est guère de mon goût. Je me suis donné mon congé moi-même, sans daigner avoir le moindre éclaircissement avec Arsénie. » « Vous avez bien fait, » reprit la soubrette nommée Béatrix. « J'en ai usé à peu près de la même manière avec Constance. Un beau matin, je lui rendis mes comptes froidement. Elle les reçut sans me dire une syllabe, et nous nous séparâmes assez cavalièrement. « Je suis ravie, » lui dis-je, « que nous nous retrouvions dans une maison plus honorable. Donna Euphrasia me paraît une façon de femme de qualité, et je la crois d'un très bon caractère. » « Vous ne vous trompez pas, » me répondit la vieille suivante. « Elle a de la naissance, ce qui se voit assez par ses manières. Et pour son humeur, je puis vous assurer qu'il n'y en a point de plus égale ni de plus douce. Elle n'est point de ces maîtresses emportées et difficiles qui trouvent à redire à tout, qui crient sans cesse, tourmentent leurs domestiques, et dont le service en un mot est un enfer. Je ne l'ai pas encore entendue gronder une seule fois. » Tant elle aime la douceur. Et quand il m'arrive de ne pas faire les choses à sa fantaisie, elle me reprend sans colère, et jamais il ne lui échappe de ces épithètes dont les dames violentes sont si libérales. « Mon maître, repris-je, est aussi fort doux. Il se familiarise avec moi et me traite comme son égal plutôt que comme son laquais. En un mot, c'est le meilleur de tous les humains. Et sur ce pied-là, nous sommes, vous et moi, beaucoup mieux que nous n'étions chez nos comédiennes. « Mille fois mieux, » repartit Béatrix. « Je menais une vie tumultueuse, au lieu que je vis présentement dans la retraite. Il ne vient pas d'autre homme ici que le seigneur Don Gonzalo. Je ne verrai que vous dans ma solitude, et j'en suis bien aise. Il y a longtemps que j'ai de l'affection pour vous. » Et j'ai plus d'une fois envié le bonheur de l'or de vous avoir pour amie. Mais enfin, j'espère que je ne serai pas moins heureuse qu'elle. Si je n'ai pas sa jeunesse et sa beauté, en récompense, je hais la coquetterie, ce que les hommes ne sauraient assez payer. Je suis une tourterelle pour la fidélité. » Comme la bonne Béatrix était une de ces personnes qui sont obligées d'offrir leur faveur, parce qu'on ne les leur demanderait pas, je ne fus nullement tenté de profiter de ses avantages. Je ne voulus pas pourtant qu'elle s'aperçût que je la méprisais, et même j'eus la politesse de lui parler de manière qu'elle ne perdît pas toute espérance de m'engager à l'aimer. Je m'imaginai donc que j'avais fait la conquête d'une vieille servante, et je me trompais encore dans cette occasion. La soubrette n'en usait pas ainsi avec moi seulement pour mes beaux yeux. Son dessein était de m'inspirer de l'amour pour me mettre dans les intérêts de sa maîtresse, pour qui elle se sentait si zélée qu'elle ne s'embarrassait point de ce qu'il lui en coûterait pour la servir. je reconnus mon erreur dès le lendemain matin, que je portais de la part de mon maître un billet doux à Euphrasie. Cette dame me fit un accueil gracieux, me dit mille choses obligeantes, et la femme de chambre aussi s'en mêla. L'une admirait ma physionomie, l'autre me trouvait un air de sagesse et de prudence. À les entendre, le seigneur Don Gonzal possédait en moi un trésor. En un mot, elles me louèrent tant que je me défiais des louanges qu'elles me donnèrent. J'en pénétrai le motif, mais je l'ai reçu en apparence avec toute la simplicité d'un sot, et par cette contre-ruse, je trompai les friponnes, qui levèrent enfin le masque. « Écoute, Gil Blas, me dit Euphrasie, il ne tiendra qu'à toi de faire ta fortune. Agissons de concert, mon ami. Don Gonzal est vieux et d'une santé si délicate que la moindre fièvre, aidée d'un bon médecin, l'emportera. Ménageons les moments qui lui restent et faisons en sorte qu'il me laisse la meilleure partie de son bien. Je t'en ferai bonne part, je te le promets. Et tu peux compter sur cette promesse, comme si je te la faisais par devant tous les notaires de Madrid. » « Madame, lui répondis-je, disposez de votre serviteur. Vous n'avez qu'à me prescrire la conduite que je dois tenir, et vous serez satisfaite. »« Eh bien, reprit-elle, il faut observer ton maître et me rendre compte de tous ses pas. Quand vous vous entretiendrez tous deux, ne manque pas de faire tomber la conversation sur les femmes. Et de là, prends, mais avec art, occasion de lui dire du bien de moi. » « Occupe-le d'Euphrasie autant qu'il te sera possible. Ce n'est pas tout ce que j'exige de toi, mon ami. Je te recommande encore d'être fort attentif à ce qui se passe dans la famille des Pachecot. Si tu t'aperçois que quelques parents de Don Gonzal aient de grandes difficultés auprès de lui et couchent en joue sa succession, tu m'en avertiras aussitôt. Je ne t'en demande pas davantage. Je le coulerai à fond en peu de temps. Je connais les divers caractères des parents de ton maître. Je sais quel portrait ridicule on lui peut faire d'eux, et j'ai déjà mis assez mal dans son esprit tous ses neveux et ses cousins. » Je jugeai par ses instructions et par d'autres qui joignit Euphrasie que cette dame était de celles qui s'attachent aux vieillards généreux. Elle avait depuis peu obligé Don Gonzal à vendre une terre dont elle avait touché l'argent. Elle tirait de lui tous les jours de bonnes nippes, et de plus, elle espérait qu'il ne l'oublierait pas dans son testament. Je finis de m'engager volontiers à faire tout ce qu'on attendait de moi, et pour ne rien dissimuler, je doutais, en m'en retournant au logis, si je contribuerais à tromper mon maître, ou si j'entreprendrais de le détacher de ma maîtresse. Ce dernier parti me paraissait plus honnête que l'autre, et je me sentais plus de penchant à remplir mon devoir qu'à le trahir. D'ailleurs, Euphrasie ne m'avait rien promis de positif, et cela a peut-être été cause qu'elle n'avait pas corrompu ma fidélité. Je me résolus donc à servir Don Gonzal avec zèle, et je me persuadais que si j'étais assez heureux pour l'arracher à son idole, je serais mieux payé de cette bonne action que des mauvaises que je pourrais faire. Pour parvenir à la fin que je me proposais, je me montrai tout dévoué au service de Donna Euphrasia. Je lui fis accroire que je parlais d'elle incessamment à mon maître, et là-dessus, je lui débitai des fables qu'elle prenait pour argent comptant. Je m'insinuai si bien dans son esprit qu'elle me crut entièrement dans ses intérêts. Pour mieux lui en imposer encore, j'affectai de paraître amoureux de Béatrix, qui, ravie à son âge de voir un jeune homme à ses trousses, ne se souciait guère d'être trompée, pourvu que je la trompasse bien. Lorsque nous étions auprès de nos princesses, mon maître et moi, cela faisait deux tableaux différents dans le même goût. Don Gonzal, sec et pâle comme je l'ai peint, avait l'air d'un agonisant quand il voulait faire les doux yeux. Et mon infante, à mesure que je m'en montrais plus passionnée, prenait des manières enfantines et faisait tout le manège d'une vieille coquette. Aussi avait-elle 40 ans d'école, pour le moins. Elle s'était raffinée au service de quelques-unes de ces héroïnes de galanterie qui savent plaire jusque dans leur vieillesse et qui meurent chargées des dépouilles de deux ou trois générations. Je ne me contentais pas d'aller tous les soirs avec mon maître chez Euphrasie. J'y allais quelquefois tout seul pendant le jour, et je m'attendais toujours à trouver dans cette maison quelque jeune galant caché. Mais à quelque heure que j'y entrasse, je n'y rencontrais jamais personne, pas même de femme d'un air équivoque. Je n'y découvrais pas la moindre trace d'infidélité. Ce qui ne m'étonnait pas peu, car, quoique Béatrix m'eût assuré que sa maîtresse ne recevait aucune visite masculine, je ne pouvais penser qu'une si jolie dame fût exactement fidèle à Don Gonzale. En quoi, certes, je ne faisais pas un jugement téméraire. Et la belle Euphrasie, comme vous le verrez bientôt, pour attendre plus patiemment la succession de mon maître, s'était pourvue d'un amant plus convenable à une femme de son âge. Un matin, je portais à mon ordinaire un billet doux à la maîtresse, j'aperçus, tandis que j'entrais dans sa chambre, les pieds d'un homme cachés derrière une tapisserie. Je me gardais bien de faire connaître que je les voyais, et sitôt que j'eus fait ma commission, je sortis sans faire semblant de les avoir remarqués. Mais, quoique cet objet dût peu me surprendre et que la chose ne roulât pas sur mon compte, je ne laissais pas d'en être fort ému. « Ah, perfide !» disais-je avec indignation. « Scélérate Euphrasie, tu n'es pas satisfaite d'en imposer à un bon vieillard en lui persuadant que tu l'aimes. Il faut que tu te livres à un autre pour mettre le comble à ta trahison. » Que j'étais fat quand j'y pense de raisonner de la sorte. Il fallait plutôt rire de cette aventure et la regarder comme une compensation des ennuis et des langueurs qu'il y avait dans le commerce de mon maître. J'aurais du moins mieux fait de n'en dire mot que de me servir de cette occasion pour faire le bon valet. Mais, au lieu de modérer mon zèle, j'entrai avec chaleur dans les intérêts de Don Gonzale et lui fis un fidèle rapport de ce que j'avais vu. J'ajoutai même à cela que Euphrasie m'avait voulu séduire. Je ne dissimulai rien de tout ce qu'elle m'avait dit et il ne tint qu'à lui de connaître parfaitement sa maîtresse. Il me fit quelques questions, comme s'il n'eût pas entièrement ajouté foi à ce que je venais de lui rapporter. Mais telles furent mes réponses qu'elles lui ôtèrent la satisfaction d'en pouvoir douter. Il en fut frappé, malgré le sang-froid qu'il conservait dans toute autre chose, et une petite émotion de colère qui parut sur son visage sembla présager que la dame ne lui serait pas impunément infidèle. « C'est assez, Gil Blas, me dit-il. Je suis très sensible à l'attachement que je te vois à mon service, et ta fidélité me plaît. Je vais tout à l'heure chez Euphrasie. Je veux l'accabler de reproches et rompre avec l'ingrate. » À ces mots, il sortit effectivement pour se rendre chez elle, et il me dispensa de le suivre, pour m'épargner le mauvais rôle que j'aurais eu à jouer pendant leur éclaircissement. J'attendis le plus impatiemment du monde que mon maître fût de retour. Je ne doutais point qu'ayant un aussi grand sujet qu'il en avait de se plaindre de sa nymphe, il ne revint détaché de ses attraits, ou tout au moins résolu d'y renoncer. Dans cette pensée, je m'applaudissais de mon ouvrage. Je me représentais le plaisir qu'auraient les héritiers naturels de Don Gonzale quand ils apprendraient que leurs parents n'étaient plus le jouet d'une passion si contraire à leurs intérêts. Je me flattais qu'ils m'en tiendraient compte et qu'enfin j'allais me distinguer des autres valets de chambre qui sont ordinairement plus disposés à maintenir leur maître dans la débauche qu'à les en retirer. J'aimais l'honneur et je pensais avec plaisir que je passerais pour le coryphée des domestiques. Mais une idée si agréable s'évanouit quelques heures après. Mon patron arriva. « Mon ami, me dit-il, je viens d'avoir un entretien très vif avec Euphrasie. Je l'ai traité d'ingrate et de perfide. Je l'ai accablé de reproches. Sais-tu bien ce qu'elle m'a répondu? Que j'avais tort d'égoutter des valets. Elle soutient que tu m'as fait un faux rapport. Tu n'es, si on l'en croit, qu'un imposteur, qu'un valet dévoué à mes neveux, pour pour l'amour de qui tu n'épargnerais rien pour me brouiller avec elle. J'ai vu couler de ses yeux des pleurs, mais des pleurs véritables. Elle m'a juré, par ce qu'il y a de plus sacré, qu'elle ne t'a fait aucune proposition et qu'elle ne voit pas un homme. Béatrix, qui me paraît une bonne fille, incapable de mentir, m'a protesté la même chose, de sorte que, malgré moi, ma colère s'est apaisée.
« Eh quoi, monsieur ? » interrompis-je avec douleur. « Doutez-vous de ma sincérité ? Vous défiez-vous ? »
« Non, mon enfant, » interrompit-il à son tour, « je te rends justice. Je ne te crois point d'accord avec mes neveux. Je suis persuadé que mon intérêt seul te touche, et je t'en sais bon gré. Mais après tout, les apparences sont trompeuses. Peut-être n'as-tu pas vu effectivement ce que tu t'imaginais voir. Et dans ce cas, juge jusqu'à quel point ton accusation doit être désagréable à Euphrasie. Quoi qu'il en soit, c'est une femme que je ne puis m'empêcher d'aimer. C'est mon sort. Il faut même que je lui fasse le sacrifice qu'elle exige de mon amour. Et ce sacrifice est de te donner ton congé. J'en suis fâché, mon pauvre Gil Blas, poursuivit-il, et je t'assure que je n'y ai consenti qu'à regret, mais je ne saurais faire autrement. Compatis à ma faiblesse. Ce qui doit te consoler, c'est que je ne te renverrai pas sans récompense. De plus, je prétends te placer chez une dame de mes amies, où tu seras fort agréablement. Je fus bien mortifié de voir tourner ainsi mon zèle contre moi. Je maudis Euphrasie et déplorai la faiblesse de Don Gonzale, de s'en être laissé posséder. Le bon vieillard sentait assez qu'en me congédiant, pour plaire seulement à sa maîtresse, il ne faisait pas une action des plus viriles. Aussi, pour compenser sa mollesse et mieux faire avaler la pilule, il me donna 50 ducats et me mena le jour suivant chez la marquise de Chaves, à laquelle il dit en ma présence que j'étais un jeune homme qui n'avait que de bonnes qualités, qu'il m'aimait, et que, des raisons de famille ne lui permettant pas de me retenir à son service, il la priait de me prendre au sien. Elle me reçut dès ce moment au nombre de ses domestiques, si bien que je me trouvais tout à coup dans une nouvelle maison.